Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
François Grunewald, bonjour.
Bonjour.
Véronique de Geoffroy, bonjour.
Bonjour Alain.
Merci à tous les deux, François et Véronique, de nous accueillir aujourd'hui dans votre lieu. Dans la Drôme. Vous êtes tous les deux responsables d'une ONG qui s'appelle le groupe URD. Et vous présentez une originalité particulière, c'est que vous n'êtes pas à Paris, vous n'êtes pas à New York, vous n'êtes pas à Moscou ou à Conakry, vous êtes en pleine campagne, au milieu de la Drôme provençale. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Voilà. Et évidemment, l'endroit, on y reviendra, est tout à fait charmant et tout à fait agréable et vient en quelque sorte comme en contrepoint des violences de ce monde. C'est un havre pour vous, j'imagine, ici.
C'est ça, c'est souvent un lieu où quand on rentre de mission, après avoir été sur des contextes difficiles, on retrouve... la paix, la tranquillité, l'espace aussi et le lieu pour prendre du recul, réfléchir et essayer de réorienter ou de se poser les bonnes questions par rapport à l'aide humanitaire ou l'aide dans ces situations de crise, hein, l'aide qui est apportée. C'est aussi un lieu où on invite les gens à nous rejoindre pour faire ce pas de côté et prendre le recul sur l'action.
Le groupe URD n'est pas une ONG classique, c'est en fait, on a un statut d'ONG, mais on est beaucoup plus un institut de recherche, d'évaluation, de production de méthodes et de formation qui est au service des acteurs de l'aide, qu'ils soient des ONG, qu'ils soient les Nations Unies, qu'ils soient des bailleurs de fonds comme la Commission européenne, comme le gouvernement français ou le gouvernement britannique ou danois. Donc on est un acteur de deuxième ligne, non pas qu'on n'est pas souvent en première ligne pour observer, mais on n'est pas un acteur de l'action, on est un acteur de la réflexion et de l'amélioration des pratiques.
Comme si les ONG et le monde de l'humanitaire aujourd'hui avaient besoin, en quelque sorte, de gens indépendants, de groupements indépendants qui viennent les auditer, qui viennent les critiquer, qui viennent les compléter. Quelle est la fonction, en quelque sorte, de ce groupe URD ? C'est d'être un censeur, d'être quelqu'un qui réfléchit, un groupe qui prend un peu de recul, qui n'est pas dans l'action directe, vous l'avez dit ?
En fait, il faut revenir un petit peu en arrière sur l'histoire du groupe.
Oui.
92, c'est la fin de la guerre froide. C'est un moment où beaucoup d'acteurs de l'aide se demandent que va devenir le secteur, que va devenir le monde, comment l'aide va s'adapter. C'est un moment où une ONG qu'on connaît bien, Vétérinaires sans frontières, avait organisé son 10e anniversaire. Et donc on avait été toute une série de gens là à essayer d'amener des idées, à débattre. Et c'est au repas, le soir de ce colloque, qu'on s'est dit il faut absolument qu'on structure un mécanisme de réflexion et de débat autour de ces futurs du monde et ces futurs de l'aide. Et donc avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, Handicap international, Action contre la faim, Bioforce, etc. Donc... avait été créée cette plateforme de réflexion qui a tourné pendant plusieurs années. On avait la chance d'avoir une femme extraordinaire qui travaille avec nous pour animer un peu le groupe qui était Claire Pirotte, une ancienne de MSF qui nous a quittés, qui est décédée il y a quelques années, mais qui était une femme absolument extraordinaire. D'ailleurs, pour elle, nous avons planté un olivier qui est là, puisque chaque personne qui est proche de nous et qui part, on plante un arbre ici. Et puis en 97, on s'est rendu compte que cette mécanique de réseau et de plateforme d'échange se mettait à tourner un petit peu en rond, d'une part. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'il manquait en France quelque chose de majeur qui était, comme on trouve en Angleterre, comme on trouve aux États-Unis, une structure de type think tank, indépendante, capable de faire de l'évaluation, de la recherche, de la production d'idées. C'est à ce moment-là que, pour des hasards, comme sont parfois les hasards de la vie, je suis tombé sur ce lieu qui m'a dit « je suis là pour toi ». Et donc, on a décidé que le groupe URD changerait de statut et viendrait s'installer ici pour devenir le premier think tank français opérationnel de recherche, d'évaluation, de production de méthodes. Et on est une des principales structures au niveau même international avec cette combinaison d'outils, de modes de travail.
Voilà, recherche, production du dé, audit, évaluation. À qui peut-on vous comparer dans le monde, je dirais, de l'humanitaire ? D'autres organismes qui ne sont peut-être pas d'ailleurs francophones, qui sont peut-être anglophones de naissance, je dirais, car vous êtes aussi anglophone, je suppose, bien sûr.
Alors,
il y a d'autres instituts comme le vôtre ?
Alors, en Angleterre, oui. Il y a l'unité Humanitarian Practice Network, ou groupe, au sein de ODI, qui est notre partenaire.
L'acronyme, c'est
HPG,
oui.
De ODI, du Overseas Development Institute.
Oui.
Cette structure HPG, en fait, est notre partenaire, je dirais, naturel sur les travaux de recherche, d'accompagnement et de réflexion sur le secteur. Donc, certes, ils ont d'autres moyens, ils ont une histoire plus longue que la nôtre, mais on peut se comparer à eux, effectivement. Mais pour revenir, si je peux revenir sur la question que tu posais tout à l'heure, je pense que dans le secteur, effectivement, on est là pour aider à prendre du recul, pour que les acteurs qui sont dans l'opérationnel au quotidien et passant d'une crise à l'autre, d'une urgence à l'autre, puissent effectivement avoir un espace et un partenaire qui va régulièrement questionner les pratiques, remettre en perspective. Dans certains cas aussi, pour quand on est dans des situations d'urgence complexe, aider à décoder un petit peu les contextes, à éclairer la complexité des situations, parce que quand on aborde le secteur humanitaire, on a l'impression que les choses sont simples. On vient, on va sauver les gens en apportant de la nourriture, et finalement il ne s'agit que de ça, et si on a les fonds, on peut reconstruire suite à une catastrophe naturelle. Dès lors qu'on commence à rentrer un peu sérieusement dans le secteur, et dès lors qu'on se professionnalise, on se rend compte, et même dès lors qu'on s'intéresse à la question, on se rend compte que les choses sont bien plus complexes que ce qu'on croit, et qu'il ne s'agit pas simplement de reconstruire suite à une catastrophe naturelle un habitat, mais de se questionner pourquoi la personne elle a été finalement vulnérable à cette catastrophe, et comment mieux reconstruire pour ne pas remettre les victimes dans les mêmes états de vulnérabilité. Et du coup, voilà, c'est là qu'on rentre dans toute la complexité finalement de l'aide humanitaire et dans les enjeux de compréhension de cette complexité, et du coup dans le questionnement qu'on doit avoir dans le secteur de l'aide, parce que je pense qu'on n'est jamais complètement sûr qu'effectivement ce qui est fait est bien fait, que ça ne crée pas plus de mal que de bien, et que voilà, il y a besoin dans le secteur, comme dans tout autre secteur, d'individus, de structures dont le rôle va être effectivement peut-être de questionner et d'aider à prendre du recul. Voilà.
Voilà. Alors, on a démarré notre émission, on est dans le vif du sujet, mais peut-être un petit point d'histoire. Les hommes sont ce qu'ils sont, ils ont une histoire.
Et les femmes aussi.
Et les femmes aussi. Mais les femmes sont des hommes. Et les hommes sont des femmes.
Avec un grand H.
Avec un grand H. Donc comment vous, François Grunewald, vous en venez à être un des acteurs importants de l'humanitaire aujourd'hui en France et dans le monde? Comment ça démarre, cette histoire?
Oh, ça démarre tout petit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents historiens géographes. La géographie, ça sert à faire la guerre comme l'île de chevet quasiment, et donc j'ai baigné dans ces questions-là depuis très longtemps.
Votre père était militariste ?
Non, non, mon père était diplomate, prof d'histoire géo, et justement, ce livre majeur, La géographie, ça sert aussi à faire la guerre, est un outil de réflexion sur l'environnement qui nous entoure, comment est-ce que les conflits se déclarent, comment les conflits se gèrent, en utilisant les outils de la géographie physique, humaine, etc. J'ai passé beaucoup de temps dans des fermes en Normandie où j'ai travaillé parce que c'était là, il y avait l'histoire de famille qui m'y ont amené régulièrement. Et j'ai découvert René Dumont, très jeune et donc couleur d'affiche pour sa première campagne écologique.
Alors René Dumont, il faut peut-être le signaler aux plus jeunes de nos auditeurs.
René Dumont.
Je me souviens qu'il a été candidat à l'élection présidentielle du temps de De Gaulle, quelque
74,
chose comme ça.
74.
74.
Hein. Moi j'étais couleur d'affiche à ce moment-là pour
d'accord.
lui.
D'accord. Et c'était un écologiste.
C'était un agronome.
Avant l'heure.
Un agronome. Oui. Et ça a oui. été le premier écologiste, puisque ça a été le premier candidat écologiste.
Oui.
Et donc c'est. Cette problématique autour des enjeux de l'environnement et de la solidarité mondiale a été quelque chose de très très vite prégnant pour moi. Et donc j'ai décidé de devenir agronome pour suivre un peu ses traces. Et très vite, je suis parti sur le terrain, en Afrique, en Asie. D'abord sur des problèmes de développement, mais très vite aussi bien quand je travaillais au Mali... dans les villages d'origine des migrants qui étaient en France à l'époque, on voyait l'impact des sécheresses, l'impact des difficultés sociales, ou quand je suis allé travailler au Cambodge ensuite, toutes les problématiques des réfugiés, les problématiques de la guerre. Et très vite, je me suis orienté vers cette problématique du développement agricole dans des contextes difficiles. Donc ça a été le Cambodge, le Laos... Et puis, par une série de là encore, l'histoire nous fait, et si on sait attraper les opportunités, on l'a construit avec. J'ai rejoint le comité international de la Croix-Rouge, où j'ai aidé à créer toute la dynamique de sécurité alimentaire, de réhabilitation agricole, de soutien aux stratégies de survie des populations. Ce qui m'a amené de la Somalie, la Tchétchénie, le Soudan, tous les pays en guerre de l'époque, à travailler sur ces problématiques du lien urgence-développement, dans le sens que pendant les crises elles-mêmes, il y a des tas d'opportunités pour travailler avec des outils de développement, alors qu'on reste dans des contextes de crise, et c'est ça qui m'a conduit évidemment très rapidement à contribuer à la création du groupe URD, en 92, même si à l'époque je travaillais déjà au CICR, mais j'ai contribué à la création de la mécanique du groupe et participé à beaucoup de ces réunions. Et puis les choses après, voilà, je suis tombé sur la Fontaine des Marins, lieu magique, et j'ai quitté le comité international de la Croix-Rouge pour m'installer ici, ce qui a été un pari un peu fou, puisque personne pensait qu'on pourrait... faire ça, on pourrait avoir un institut de recherche spécialisé sur les crises quelque part loin des aéroports. À l'époque, le TGV Méditerranée n'existait pas, le TGV s'arrêtait à Lyon, voilà, c'était un peu un pari fou. C'était l'époque où Internet était encore sur le téléphone avec le tout 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 tout, il n'y avait pas la Wi-Fi, voilà. Et le pari a continué avec Véronique.
Voilà. Et donc, la manière pour vous, François, François Grunewald, d'arriver en quelque sorte à l'humanitaire, on va dire que ça a été plus par l'intellect, par le fait que vous êtes un agronome, que vous êtes un chercheur, et que c'est en cette qualité que vous étiez embauché par la Croix-Rouge internationale. C'est bien ça?
Tout à fait.
Voilà. Alors, je le dis parce que ce n'est pas pour faire un rapport homme-femme qui serait un petit peu bateau. Vous rentrez par l'intellectuel, et puis Véronique de Geoffroy rentre peut-être dans cette histoire de l'humanitaire par la sensibilité. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est juste.
Vous, comment vous y arrivez?
Même si je pense oui. que François aussi a été... sûrement conduit par un mouvement personnel fort d'engagement vis-à-vis de l'injustice de ce monde, hein, et un mouvement du cœur. Je crois que c'est important et que toute personne qui travaille dans ce secteur, à un moment donné, s'est mise en mouvement, voilà, face, je crois, aux injustices de ce monde, et qu'après, on trouve chacun son chemin. Mais effectivement, alors...
C'est important à dire, Mélissa. Oui, c'est important à dire. Parce que, pardon, hein, on va continuer ce que vous allez nous dire sur votre histoire personnelle. Mais juste une petite parenthèse. On est souvent sur des préoccupations très intellectuelles, très organisées, très technologiques, de plus en plus technologiques. Et d'une certaine manière, parfois, on oublie le sentiment.
Absolument.
On oublie ce qui est déclencheur de l'activité humaine quand elle prétend, quand elle a l'ambition, la volonté d'aider les autres. Voilà, mais pardon, c'est une petite, parenthèse.
On y reviendra peut-être, mais je pense que même le secteur de l'aide dans son ensemble aujourd'hui, et face à un danger justement de cette dissonance entre l'engagement premier et la réalité du métier tel qu'il est devenu aujourd'hui, avec des injonctions de performance et de rendu, et de où on en perd un peu le sens.
Voilà. Donc alors, on y reviendra.
Ouais.
Mais votre histoire,
mon histoire,
comment vous y arrivez?
Moi, j'ai grandi dans les années 70, à l'époque où MSF commençait à se faire connaître.
Médecins sans frontières, oui.
Voilà, et dès toute petite, je disais que je voulais être Médecins sans frontières. Bon, après, j'ai pas fait des études de médecine. J'ai fait d'abord des études de biologie.
Vous vouliez être médecin ou vous vouliez être médecin sans frontières?
Être médecin sans frontières, comme, comme quand un enfant vous dit ça à 5 ou 6 ans. Donc,
c'est joli.
Et j'étais née en Colombie, de parents français, mais née en Colombie. Donc, dès que j'ai eu l'âge, je me suis payé un billet d'avion et je suis partie bénévole voilà, à Bogota pour travailler auprès des gamins des rues.
À quel âge donc?
Donc, à 19, 20 ans, quelque chose comme ça.
Mais vous y étiez née en même temps?
J'y étais née, voilà.
Donc, il y avait un tropisme, il y avait un intérêt pour ce pays.
Absolument. J'ai attendu d'être assez grande pour pouvoir aller en Colombie, là où j'étais née. Après ça, j'ai senti que j'avais besoin d'être formée. Et donc, j'ai fait Bioforce. Hein, j'ai fait l'école Bioforce à Lyon. Puis, je suis repartie en ONG pendant 5 ou 6 ans dans différentes ONG sur des terrains de crise, de conflit. C'était les Balkans, c'était les années 90. Donc, effectivement, les Balkans, les Grands Lacs autour du Rwanda. Ces années d'expérience m'ont à la fois consolidée dans mon envie de continuer dans le secteur, mais m'ont fait vraiment réfléchir. Et je me souviens à l'époque avoir vraiment formulé de la manière suivante à cette double responsabilité que les organisations humanitaires ont de travailler en qualité, d'évaluer leurs actions, à la fois vis-à-vis des populations qui n'ont pas leur mot à dire, hein, et vis-à-vis des donateurs qui n'ont pas l'information de ce qui est fait. Et j'avais vraiment, y compris parce que certaines expériences ont été difficiles et plutôt négatives avec certaines ONG, formulé cette exigence qui, je dirais, 20-30 ans plus tard, continue d'être le fil rouge de mon engagement dans le secteur. Et qui ont été en plus extrêmement importants parce que suite à quelques années de terrain, donc j'ai voulu compléter ma formation et donc j'ai fait ce qui était à l'époque le DESS d'Aix-en-Provence, où j'ai du coup eu l'intervention d'un professeur qui a commencé son intervention en disant « Bon, je viens faire une formation sur l'évaluation de l'action humanitaire. L'évaluation est au carrefour de deux exigences vis-à-vis des populations et des donateurs. » Et cet intervenant, c'était François Grunewald. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit « Je crois que nous avons des choses à faire ensemble. »
Voilà. Et de là, votre histoire démarre, car on le dit à nos auditeurs, vous êtes aussi dans la vie des partenaires, puisque vous êtes mariée femme.
C'est ça, exactement. Donc, je l'ai rencontré donc dans ce cadre-là, avec du coup cette envie de travailler à la fois sur cette question d'évaluation, mais effectivement, il s'est passé autre chose dans notre histoire et nous sommes devenus mari et femme et parents de deux grands-enfants maintenant.
Gracias a la vida que me ha dado tanto me vio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Voilà, merci à la vie, donc merci à la vie sans doute pour vous deux de vous être rencontrés sur un terrain professionnel et puis d'avoir débouché sur des choses plus personnelles. Et voilà, j'ai l'habitude d'interviewer des fondateurs d'ONG, je vous avoue que c'est la première, peut-être la dernière fois que j'interviewe un couple fondateur d'ONG, mais vous allez peut-être faire des petits, je ne sais pas.
On a commencé l'aventure, on avait zéro argent, c'était un pari complètement fou et qu'on a commencé et que pendant des années on a tiré un peu le diable par la queue pour faire fonctionner la structure.
Le pari fou, c'était quoi? C'était l'activité même qui prétendait faire de l'audit, qui prétendait faire tout ce que vous m'avez dit, de la production d'idées, de l'audit, de l'évaluation, etc. Ou c'était l'installation dans ce trou perdu de la Drôme provençale?
C'était d'abord le premier.
C'était le premier.
Je me rappelle, j'ai rencontré plusieurs ministres des Affaires étrangères français. Pas mal de directeurs, etc. Et je leur expliquais, je me rappelle, en 98, je revenais d'une grosse réunion à Londres, et à ce moment-là, le directeur de la coopération britannique de DFID nous expliquait que lui, il avait compris que pour gagner sur les combats du monde, il faut gagner sur les combats des idées, et qu'il allait investir massivement là-dessus. Et donc, à un moment où nous, le gouvernement français, nous donnait chichement 25 000 francs, bon, est-ce que c'est maintenant 25 000 francs? C'est à peine...
un sixième.
C'est à peine 7 000 euros.
Même pas,
oui. Lui a donné à nos amis de ODI 25 millions de pounds.
Ah oui.
Donc, on n'était pas du tout sur les mêmes à ODI Global. Pour plusieurs années, ils avaient donc des financements sur plusieurs années. Et nous, on s'est battus. Et pour l'instant... le pari reste complètement extrêmement difficile parce que l'argent dans les systèmes français, l'argent pour financer ce que l'on faisait était extrêmement rare. Ça intéressait personne en fait. Et donc il a fallu se battre, il a fallu produire. Heureusement, on s'est accroché, mais on a eu des années très très difficiles. Maintenant, les gens qui se lancent sur ce sujet s'en rendent moins compte parce que il y a théoriquement plus d'argent. Le sujet maintenant de l'évaluation est rentré un peu plus dans les mœurs, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout. Et je me rappelle d'ONG qui nous disaient, mais lui, on ne fera jamais d'évaluation. Alors que maintenant, ils sont obligés d'en faire parce que la Commission européenne, les bailleurs. Donc là,
on va y revenir, c'est un point qui est très important. Mais alors, une question tout de suite que vous avez dû vous poser à l'époque. Le fait d'aller solliciter de l'argent public. Vous disiez, les Anglais donnaient beaucoup, les Français donnaient peu. Et vous vous êtes débrouillé aussi, vous avez agi, j'imagine, vous êtes déployé pour arriver à faire que le gouvernement français, entre autres, l'État français, entre autres, et sans doute ensuite la Commission européenne, finance en partie votre activité. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous ne limitez pas votre liberté d'action et de ton et de critique ?
Alors, nous, notre principe de base, c'est on est crédible à partir du moment où on n'accepte pas les compromis. Donc, on a toujours tenu bon. L'enjeu étant toujours d'être pédagogique et d'arriver par l'intelligence du discours à faire bouger les choses. Donc, quand on n'est pas d'accord, quand on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Et si on nous dit enlever ça, on dit désolé, non.
Ça vous est déjà arrivé concrètement ?
Ah, ça nous est arrivé complètement, et ça nous est arrivé qu'on tienne, et ça nous est arrivé qu'on ait été blacklisté par des bailleurs parce qu'on avait tenu bon. Et là, là-dessus, on est connu là-dessus.
C'est-à-dire qu'il faut être capable de refuser une subvention ou de risquer de la perdre.
Il faut être capable de refuser une subvention et de risquer de la perdre. Et que c'est là-dessus qu'on construit, et c'est sur cette base éthique que l'on construit, qu'on se construit dans la durabilité. Alors, il y a plein de marchands de soupe. Le secteur de l'évaluation des think tanks, maintenant, c'est un gros secteur commercial. Il y a plein de marchands de soupe. Nous,
Alors, je ne vais pas vous demander qui, vous dites qu'il y en a beaucoup.
Il y en a. À partir du moment où l'évaluation, et notamment à Bruxelles, est devenue un énorme marché,
oui.
Se sont organisés des gros bureaux d'études, des trucs comme ça, qui sont... Alors, certains font du très bon boulot, d'autres moins bons. Et en tout cas, c'est devenu un vrai secteur commercial très compétitif. Sur lequel des gens n'ont pas toujours la même attention à la protection de leur éthique par rapport à la protection de leur marché.
Je comprends. Vous dites que c'est un gros marché, l'évaluation à Bruxelles. Ça représente, vous êtes capable de savoir ce que ça représente en millions d'euros
c'est
ou en dizaines de millions d'euros ?
Des millions par an. Oui, c'est des dizaines de millions par
an. Le seul secteur de l'évaluation de l'action humanitaire.
Action humanitaire et action de développement.
Et action de développement.
C'est des dizaines de millions par an qui passent.
Pourquoi cette évaluation ? Pour justifier précisément à l'égard des bailleurs de fonds que sont, entre autres, qu'est l'Union européenne, pour justifier de l'efficacité des interventions qui sont ainsi financées.
Tout à fait. Et en soi, cette évaluation est tout à fait justifiée.
Voilà.
Après tout, les payeurs d'impôts ont besoin de savoir que l'argent qu'ils mettent et qui part de leur poche et qui arrive à la Commission européenne est utilisé intelligemment, etc. Donc nous, on s'est battu pendant très longtemps, y compris en France, où la culture de l'évaluation était absolument absente. On a été souvent les seuls à faire passer ce message-là, à se bagarrer autour de ça. Moi, j'avais eu la chance d'avoir eu mes profs de l'agro qui étaient pionniers là-dessus, Marcel Mazoyer et Marc Dufumier qui étaient un peu les héritiers de René Dumont qui poussaient beaucoup sur ces questions-là. Donc, moi j'ai baigné là-dessus pendant toutes mes études, mais je voyais combien le monde était vide de ça, et notamment dans le secteur humanitaire, car le secteur humanitaire partait souvent de l'assomption, de l'hypothèse. Qui êtes-vous pour me poser la question si je fais bien, alors que moi je suis là pour faire le bien ?
Voilà.
Les grosses structures, y compris, je me suis battu à l'intérieur du CICR pour créer l'unité d'évaluation, parce que les gens disaient, mais à quoi ça sert, finalement, on fait bien les choses, on fait bien les choses. Et maintenant, y compris grâce à la création de la DG ECO, donc le bureau humanitaire de l'action humanitaire de l'Union européenne, qui quelque part est soumis aux impératifs de gestion de la Commission dans lequel l'évaluation est obligatoire. Et c'est en fait ECO qui a poussé pour rendre l'évaluation de l'aide humanitaire quelque chose d'obligatoire et qui est maintenant vraiment rentré dans les règles du jeu.
Est-ce que des fois c'est pas trop tatillon, c'est pas trop bureaucratique ?
Je pense que nous, on parle surtout de l'évaluation des actions et des stratégies mises en œuvre. Ce qui est vraiment très tatillon et bureaucratique, c'est les audits financiers qui, là, vont aller vraiment constater la conformité à des règles et à des normes préétablies qui, certaines fois, ne sont pas du tout appropriées, effectivement, au contexte d'intervention dans les situations de crise. Dès lors qu'on parle plus, là, nous, de l'évaluation de l'efficacité, de la pertinence des actions, des stratégies mises en œuvre, on n'est pas dans un exercice de vérification de la conformité. On est beaucoup plus dans des exercices d'apprentissage, d'intelligence collective, de réflexion, dans lequel l'évaluation est une partie, d'ailleurs, des outils mis en œuvre, mais c'est pas les seuls. Nous, aujourd'hui, on est de plus en plus... positionné comme partenaire d'apprentissage, même à la demande des organisations elles-mêmes. On n'est pas forcément dans un rapport de force. On peut être vraiment en partenariat avec des organisations qui elles-mêmes ressentent le besoin, quand elles travaillent dans des situations complexes, d'avoir des mécanismes et des équipes qui vont les aider à prendre du recul, à apprendre de l'action, à capitaliser les activités et les stratégies qui fonctionnent bien, à peut-être effectivement ne pas aller dans le mur ou en tout cas se rendre compte tôt que telle ou telle stratégie ne fonctionne pas. Et donc voilà, on est de plus en plus appelé à jouer ce rôle de partenaire d'apprentissage dans lequel, du coup, on va mettre en œuvre différents types d'activités, de l'évaluation, de l'appui à la recherche, de la capitalisation, de la formation, etc.
Est-ce qu'on pourrait, sur ce sujet-là, faire un parallèle je pense aux médecins qui reçoit beaucoup de problèmes et qui, à un moment ou à un autre, ressent le besoin d'avoir un groupe de pairs avec qui il peut discuter des cas qu'il a eus, ou de l'avocat qui peut se trouver dans un moment avec de telles difficultés de déontologiques que, d'une certaine manière, il a aussi, lui, besoin d'un partenaire qui va être son bâtonnier, par exemple. Bref, est-ce que vous jouez également ce rôle, j'allais dire, de partenariat et de respect de l'éthique professionnelle?
Alors, je pense, oui, qu'en tout cas, le secteur de l'aide a beaucoup mûri depuis les années 90, dont on parlait au début, et le début de l'histoire du groupe URD. Et par exemple, nous, aujourd'hui, on anime plusieurs groupes de travail dans lesquels, effectivement, les organisations viennent pour parler entre pairs. Donc, on a, par exemple, le réseau environnement humanitaire qui a été lancé, ça fait quoi, 8 ans maintenant, qui rassemble la plupart des ONG françaises pour qu'elles puissent échanger entre elles sur la meilleure façon de réduire l'empreinte environnementale de l'aide, de pouvoir partager les bonnes pratiques. On a aussi dernièrement repris l'animation d'un groupe sur la redevabilité et la qualité de l'aide. Et les organisations viennent...
Qu'est-ce que ça veut dire, redevabilité ?
Ce devoir de rendre compte et de travailler au mieux, parce qu'on a la responsabilité de la mise en œuvre, finalement, de l'argent qui nous est confié.
Redevable à l'égard de qui ? Des bailleurs de fonds ?
Et des populations.
Et des populations.
Voilà.
Donc, par exemple, vous disiez tout à l'heure, les donateurs et la population.
Voilà, c'est ça.
Les deux pieds.
Et donc là, par exemple, on a un groupe de travail qui rassemble la plupart des ONG françaises qui sont intéressées de pouvoir parler en confiance, entre pairs, de ce qui fonctionne et aussi de ce qui ne fonctionne pas sur ces questions-là. Et on les a accueillis, là, il y a 2-3 mois, on a accueilli un groupe d'une dizaine de personnes qui sont venues en retraite, ici, dans la Drôme, sur notre petite montagne, pour pouvoir parler entre elles. Et c'était des gens d'Action contre la faim, de Handicap international, de Médecins du Monde,
vous êtes présent
femmes,
ou pas,
etc. Bien sûr.
Vous et on anime. C'est vous
oui,
qui
oui,
animez.
Bien sûr. On anime, on apporte aussi du contenu, puisque, par exemple, on avait fait une étude sur les différentes pratiques de redevabilité de ces organisations-là. Donc, on a présenté les résultats de l'étude et animé une discussion sur ces bases-là. Donc, il y a à la fois juste animer et créer un espace entre pairs où les gens viennent avec leurs expériences et aussi, nous, à partir de nos travaux, nos études, nos évaluations, pouvoir nourrir en fait ces espaces de réflexion. Et c'est vrai, du coup, aujourd'hui, sur les questions d'environnement, sur les questions
de gestion de catastrophes,
sur ces questions de qualité et de redevabilité. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un rôle important aussi du groupe UAD dans ce qu'on disait tout à l'heure, un partenaire d'apprentissage, acteur de l'apprentissage collectif du secteur.
Mais ça peut être aussi centré sur des terrains. On est par exemple très impliqué comme acteur, comme partenaire d'apprentissage sur un gros réseau de consortium sur le Mali, sur le Nord Mali, où notre rôle c'est...
Un réseau de consortium, qu'est-ce que ça veut
dire? Alors ça veut dire, les consortiums c'est des groupes d'ONG qui travaillent ensemble, et là qui sont financés par l'Union Européenne. Donc sur le Mali, le Nord Mali, il y a 5 gros consortiums qui existent financés par l'Union Européenne.
Et le financement est collectif à l'égard de tout le consortium?
Alors chaque consortium reçoit ses financements, mais chaque consortium a son financement.
D'accord.
Et donc nous, on a reçu de l'Union Européenne, c'est nous qui leur avons d'ailleurs proposé, on leur a suggéré, un financement spécial dans lequel, par rapport à ces différents acteurs, on est au cœur de l'évaluation collective, de l'apprentissage collectif, des appuis de l'organisation, de la communication. Et donc, on est vraiment leur partenaire. Et alors, la question qui était posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on perd son indépendance? On ne perd pas son indépendance intellectuelle. Pour nous, le gros enjeu, c'est d'assurer qu'on garde l'indépendance intellectuelle pour pouvoir dire systématiquement, juger, critiquer, analyser, proposer, aider à réorienter, soutenir les choses qui marchent bien aussi, parce qu'il y en a plein, et que notre rôle, c'est d'aider à ce que les choses progressent.
Et puis en même temps, vous ne pouvez pas tout dire, j'imagine. Il doit y avoir des aspects secrets professionnels. Quand vous avez un groupe qui vient ici, un groupe de différentes ONG qui vient ici et qui parle de leurs problèmes, quand on parle de ces problèmes, ça veut dire qu'on parle aussi des choses qui sont un petit peu gênantes.
Oui, tout à fait.
Sinon, ça ne sert à rien.
L'exemple que je donnais tout à l'heure...
Et donc là vous allez vous sentir investir d'un secret professionnel, j'imagine. C'est peut-être un peu délicat à gérer, d'ailleurs.
C'est pas vraiment un secret professionnel. C'est-à-dire qu'il y a certains espaces sécurisés dans lesquels, effectivement, il y a un engagement collectif, pas que de nous, mais des uns et des autres vis-à-vis du groupe, effectivement, pour pouvoir parler en confiance, de ne pas retraduire texto et en citant la personne, ce qui a été dit. Par contre, l'apprentissage collectif qui ressort de tout ça, il sert et il nourrit le secteur. Ça, c'est très clair. Je voulais revenir quand même sur cette question d'indépendance et du fait qu'on soit aussi financé par des bailleurs de fonds. Nous, notre public cible, entre guillemets, ce n'est pas que les ONG. On sait bien que les ONG, elles mettent en œuvre des programmes aussi en fonction, alors bien sûr sur leur droit d'initiative, mais en fonction d'un certain nombre de directives et de décisions politiques qui sont prises à d'autres niveaux. Et très clairement pour nous, ces décideurs politiques, qu'ils soient au niveau du gouvernement, de l'Union européenne, ce sont aussi des publics cibles pour faire bouger les lignes sur les thématiques sur lesquelles on essaye de se positionner.
Donc votre public cible, c'est
les acteurs de l'aide, qu'ils soient décideurs, bailleurs de fonds ou opérateurs. Et c'est l'ensemble, en fait.
Y compris les Nations Unies, y compris le Monde Croix-Rouge. Vraiment, on travaille multi-acteurs. Nous, c'est vraiment, notre but, c'est de faire bouger le secteur.
Ouais.
Et le secteur est fait de plusieurs composantes. Edgar Morin a été notre président d'honneur pendant un moment, donc on est complètement plongé dans la pensée complexe et la pensée des systèmes. Et donc, pour faire bouger le système... Il y a souvent plusieurs points où il faut appuyer et donc ça peut être les bailleurs, ça peut être les politiques, ça peut être les députés, ça peut être les ONG internationales, ça peut être les ONG locales, ça peut être les ambassades. Vraiment, nous, on est tout ce qui peut permettre de faire bouger le secteur, on l'appelle cible.
Voilà. Et vous n'êtes pas des clandestins. Ma question est absurde, vous savez pourquoi? C'est juste pour annoncer le prochain titre musical, Manu Chao, être clandestine.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana illégale.
J'aurais voulu dire qu'on l'avait choisi aussi se souvenir qu'il y en a beaucoup des clandestins. C'est une des tragédies d'aujourd'hui, effectivement, bien cachée et qui est sous nos yeux, dans notre propre pays. C'est l'une des thématiques qui est en train de reformater un peu le secteur de l'aide et, à mon avis, pour le long terme. C'est effectivement la question des réfugiés, alors climatiques ou pas climatiques, de toute façon c'est difficile de les qualifier, mais effectivement ces réfugiés dans les pays du Sud, aussi bien chez nous, et avec des nouvelles questions qui se posent, notamment dans la relation avec le pouvoir politique, qui pour l'instant n'a pas trouvé encore ou ne veut pas trouver les réponses politiques à cet enjeu, alors que c'est une vraie question politique pour l'avenir.
Parce que c'est compliqué, cette affaire-là.
Alors, c'est
compliqué. On sait que ça va se développer. On sait que les politiques étatiques, je prends deux exemples, j'allais dire presque au hasard, la France, les États-Unis d'Amérique, il y a combien de millions de personnes qui sont sans papier, plus les migrants qui arrivent, on comprend que sur ce terreau, l'extrême droite prospère.
Alors c'est un sujet qui est au cœur de beaucoup de nos préoccupations en tant que groupe URD, mais même en tant que personnel. Moi, j'ai mes trois premiers articles publiés, il y en avait un qui s'appelait « Vivre et travailler au pays », qui était une analyse des problématiques de migrants avec qui j'avais beaucoup travaillé, les migrants du fleuve Sénégal, le long voyage des gens du fleuve, comme on disait à l'époque. Et donc ça, c'est un article qui doit dater de 82. Le deuxième s'appelait « Ok, bye bye, histoire des réfugiés cambodgiens », publié en 85. Le troisième était « Hmong, montagnard de nulle part », sur les réfugiés Hmong et leur tragédie, publié pareil en 86-87.
Donc c'est où ça, les Hmongs ?
C'est les montagnards du Laos.
D'accord.
Donc cette problématique-là, et aussi bien Véronique que moi, on a été professionnellement impliqués dans des crises de réfugiés massifs au Rwanda, les crises des réfugiés avant le génocide, juste après le génocide, et pendant des années encore régulièrement sur ce contexte-là. Donc c'est des situations qu'on a suivies de très près. On a eu la chance de travailler sur la crise syrienne et les réfugiés autour, mais y compris jusqu'à leur arrivée en Allemagne, à travers toute une série de travaux, d'évaluations et de recherches qu'on a fait sur la crise syrienne, sur la crise des réfugiés en Grèce, sur la crise des réfugiés en Europe. Une de nos collègues a fait un rapport passionnant sur la problématique de l'accueil en Europe. Donc ces dynamiques-là sont ancrées dans
Elles sont chevillées à la fois à vos histoires personnelles et à l'histoire du groupe URD.
Complètement, complètement.
Aujourd'hui, François Grunenwald, on fait quoi ?
Alors, peut-être un autre point important à rajouter dans l'équation, c'est que donc, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est gestion des catastrophes. On a été très impliqués dans beaucoup d'évaluations majeures, y compris les premiers grands travaux opérationnels du groupe URD, c'était après l'ouragan Mitch, en 98-99 en Amérique centrale, où on a fait notre première grande mission collective du groupe URD opérationnel d'évaluation, et le premier processus évaluatif long, c'est-à-dire qu'on a accompagné avec des missions d'évaluation la catastrophe, sa gestion et la reconstruction pendant plusieurs années. Puis après, on a été impliqué, y compris encore avec le tsunami de 2004-2005 en Asie, où on a fait beaucoup, beaucoup d'évaluations, le tremblement de terre en Haïti, le tremblement de terre au Népal. Donc on suit ces questions-là de très près et on voit l'impact que ces désastres ont sur les pays, les économies, les populations et ce que ça peut déclencher comme mouvement de population. Donc, on arrive à cette question de la mobilité globale et de ce que j'appelle le déracinement, Plus que la migration, c'est le déracinement. C'est plus que, pour moi, c'est...
Oui, parce qu'on peut migrer de manière positive.
Voilà,
bien sûr,
il y a des tas de gens qui, il y a des tas de Français qui migrent aux États-Unis pour faire du fric, etc. Oui. Pour moi, c'est vraiment le déracinement, c'est-à-dire comment, du fait d'un conflit, du fait d'une catastrophe ou d'un risque de catastrophe,
je suis obligé de partir de chez moi.
Je suis obligé de me déraciner.
De me déraciner.
Et donc on a écrit beaucoup de choses là-dessus. Hein. C'est un sujet qui est vraiment transversal dans beaucoup de nos réflexions et de nos travaux. Mais c'est vrai que on commence à voir que, alors d'abord, l'analyse du risque climatique devient imprégnant. Nous, on avait écrit là-dessus il y a 20 ans. Je regardais un de mes premiers articles sur le Sahel et sur cette question. Il date de 1998. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là. À l'époque, à une période où pas beaucoup de monde en parlait. Maintenant, le sujet, il est vraiment sur la table et c'est bien. Les politiques ne démontrent pas nécessairement encore leur vitalité, si je peux dire.
Oui, mais peuvent-elles le faire? Parce que les politiques eux-mêmes ne sont-ils pas coincés précisément par leur volonté d'être réélus, ce qui est relativement légitime, et par le fait que les populations, elles, sont très sensibles, non pas tellement au discours sur les difficultés des immigrés, bien que ça existe, mais aux difficultés que eux, de leur point de vue peut-être un peu égoïste, risquent de ressentir. Les politiques me paraissent relativement coincées, en tous les cas, par leur vision de la chose et par le fait qu'ils veulent être réélus.
Oui, non, mais c'est là où je pense qu'il y a un rôle extrêmement important pour la société civile aujourd'hui, effectivement. Alors, tout d'abord, pour aider à poser un diagnostic. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui que les politiques, mais plus globalement du coup la société civile, n'a pas encore pris conscience de la mesure des enjeux actuels et futurs face au dérèglement climatique, mais pas que, et que cette question des migrations, on n'en est qu'au début, et que la première chose, c'est de commencer à poser des constats, à pouvoir écouter d'abord déjà les scientifiques, prendre acte, partager ce constat-là. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas attendre du pouvoir politique que ça soit fait, parce que c'est intenable, mais que c'est justement de la responsabilité de la société civile de pousser à ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, alors même si, pareil, c'est pas, on ne va pas attendre des politiques, mais je pense qu'il faut se dire que, quoi qu'il arrive, on respecte nos principes qui font qu'on est des êtres humains, debout, qu'on peut se regarder dans une glace le matin. Parce que autrement, si déjà, dès lors qu'on pose un diagnostic, on commence à faire un délit de solidarité ou que sais-je, ça n'est pas possible. Donc là, pareil, il y a un rôle de la société civile à se positionner en rappel et en rempart d'un certain nombre de principes d'humanité, de dignité, en fait, de dignité pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. Et ensuite, il faut organiser un dialogue. Hein. Il faut pouvoir s'écouter entre politiques, entre peut-être monde des entreprises, de la société civile, pour réfléchir à comment est-ce qu'on va s'organiser pour l'avenir. Parce que je pense que la société...
Mais qu'est-ce que vous préconisez? Parce que jusque-là, on est d'accord. Mais vous avez... Parce que j'ai la chance d'être avec vous deux, qui avez, à travers votre groupe URD, j'allais dire, une vision relativement planétaire, globale. Parce que vous n'êtes pas une ONG spécifique qui travaille sur un terrain et sur tel ou tel terrain d'activité à tel ou tel endroit, à tel ou tel pays du monde, mais vous avez une vue générale. Donc, la vue générale, quand vous regardez le monde, quand vous regardez tous ces déplacements de population, comment on fait pour anticiper sur la résolution de cette difficulté dans le temps?
Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que nous, on n'est qu'une pièce à l'intérieur de mécanismes beaucoup plus larges.
Oui.
Il existe des ONG très engagées, comme Oxfam, comme le réseau Action Climat. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Et nous, on veut pas se substituer à eux. D'ailleurs, on n'en a pas les moyens et on n'a encore pas la... On a une niche particulière qui est de produire de la connaissance fine sur les contextes et d'essayer de transformer cette connaissance fine en outils intéressants et intelligents pour que les acteurs du plaidoyer puissent s'en prendre, puissent l'utiliser. Donc ça, c'est une partie de notre travail. Humblement, on n'est d'ailleurs pas très présent dans les médias, on est souvent des acteurs de l'ombre, dans lesquels on produit des rapports, on produit des articles, on va les présenter à des acteurs, mais pas nécessairement, alors, parfois dans des grandes conférences, mais pas toujours.
Mais d'une certaine manière, les grandes organisations que vous citiez à l'instant vont s'appuyer aussi sur vos travaux.
C'est l'objectif. Après, elles le font-elles ou le font-elles pas, on n'en sait rien, mais c'est l'objectif, c'est de le faire. Après, on essaye de travailler un petit peu sur des niches particulières, notamment avec certains bailleurs qui nous font confiance, comme la Commission européenne, qui nous demande de les aider en termes de policy. Un petit peu...
Politique générale, définition de leur politique.
Voilà, exactement. Donc on fait ça notamment avec la Commission européenne. On essaye de faire ça un petit peu avec le gouvernement français. C'est compliqué.
C'est plus facile avec la Commission qu'avec l'État français.
C'est différent.
Ouais.
C'est différent. On essaye de... Déjà aussi sur notre territoire, et peut-être ça peut être quelque chose sur lequel... Véronique, tu peux intervenir parce que tu es vraiment une actrice clé de ce débat sur le territoire des baronnies.
Mais ça, c'est hors groupe URD, c'est à titre personnel, mais
à
évidemment,
titre personnel,
il y a des engagements personnels qu'on essaye d'ancrer aussi là où on habite et dans les régions qu'on aime, quoi, qu'on a choisies. Donc effectivement, avec des réflexions sur la transition écologique, sur le rôle entre citoyens et acteurs de la vie publique sur un territoire, comment est-ce que les interactions peuvent être positives et fructueuses, mais sur des enjeux effectivement là d'une autre nature, bien que voilà, il y a l'association d'accueil des migrants et que à Bulles-les-Baronnies on a aussi des familles de Syriens ou des Maliens qui sont accueillis avec une générosité extraordinaire, comme ce qui se passe sur tout le territoire d'ailleurs,
hein. Y compris quand ils sont en situation irrégulière.
Ah bah ça c'est effectivement administrativement plus compliqué, mais avec des solidarités qui s'organisent. On n'est pas très loin de la vallée de la Roya aussi, et ça a fait partie d'ailleurs de l'étude que Valérie a conduite sur les solidarités ici en France. Elle est allée voir ce qui se passait dans cette vallée.
Et Valérie.
Léon, une de nos collègues qui a produit le rapport.
Qu'on va en parler, vous avez une équipe évidemment, vous n'êtes pas tout seul, et vous êtes effectivement au fond d'une vallée de la Drôme provençale, mais vous avez réussi à réunir au bout du monde toute une équipe. Mais avant d'en venir à cela et à voir quel est l'avenir du groupe URD et quels sont vos projets pour la suite, peut-être quelques notes de musique d'un instrument que vous affectionnez, François Grunewald, la kora, cette harpe africaine
qui a une sonorité absolument merveilleuse.
Qui vient égrener ces notes fort agréables au milieu de ces difficultés. Alors, vous vous appelez groupe URD. Pourquoi URD, François Grunewald? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire urgence, réhabilitation, développement. Quand on est né en 92, la grosse question suite à la fin de la guerre froide, c'était que va-t-il exister de ces liens entre l'urgence, l'action humanitaire et le développement dans un monde dans lequel, théoriquement, la guerre était finie, puisque la guerre froide était finie. Et donc on s'est créé comme ça.
Et on croyait que la guerre, il n'y en aurait plus.
Et on croyait que la guerre reviendrait plus. C'était l'agenda de Boutros-Ghali, l'agenda pour la paix, et tout le monde y croyait. Nous, on avait quelques questions, quelques interrogations, mais voilà, on s'est créé là-dessus. Évidemment, ça représente une toute petite partie de nos activités. Ça représente quand même un sujet sur lequel on a eu pas mal d'impact, puisqu'on a été très impliqué dans l'écriture de pas mal de documents de la Commission européenne sur ces questions-là. On a été, y compris encore récemment, c'est nous qui avons fait tous les travaux de recherche pour la préparation de la stratégie française sur les fragilités et les gestions de crise. Donc on est vraiment au cœur de ces questions-là. Et on a vraiment au niveau international, eu un impact sur la réflexion, sur le sujet. Donc c'est un des endroits où on a eu un gros impact.
Alors il nous reste très peu de temps, l'avenir, Véronique de Geoffroy.
Je crois qu'au sein de l'équipe du groupe URD, on est une vingtaine maintenant, on est très nombreux à être très inquiets face aux bouleversements qui sont déjà constatés. Alors on parle beaucoup de l'impact du changement climatique, mais il y a d'autres dérèglements, d'autres pollutions et d'autres dérèglements liés aux inégalités croissantes dans le monde qui vraiment nous inquiètent énormément. Et face à cela, je crois qu'on est tous en train de se remobiliser, peut-être différemment, pour essayer d'œuvrer pour des solidarités renouvelées, en fait, dans ce contexte, face à cet avenir assez sombre, avec plusieurs questions. Par exemple, est-ce que le système de l'aide, l'hyperstructure telle qu'on la connaît au niveau international, est-ce que ça va rester pertinent? Et quelle place pour, par exemple, des organisations de la société civile qui peut-être rentrent pas dans ce super système, hein, mais peut-être que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut investir.
Quand vous parlez de superstructure, vous parlez des grosses ONG ?
Des grosses ONG, mais surtout de tout le système de l'aide avec les mécanismes de coordination, avec les multiples niveaux de financement en cascade pour atteindre le bénéficiaire final sur le
terrain. Quelles sont les alternatives ?
Eh ben, c'est sûrement des choses qu'on imagine encore très peu, mais avec, des donations beaucoup plus directes maintenant avec les nouvelles technologies, des solidarités qui vont peut-être passer sans toute cette superstructure où on le voit, l'accueil des migrants en France, c'est un peu les grosses organisations, c'est beaucoup la société civile avec
des petites unités
sur les territoires. Et du coup, pour nous, là, face au bouleversement à venir, il y a vraiment une question à avoir globalement pour le secteur de l'aide. Est-ce que cette superstructure reste pertinente? Quelle place pour les acteurs locaux? Est-ce qu'on n'est pas parti dans des pratiques qui sont trop techno? Et est-ce qu'il n'y a pas un nouveau lien encore à réfléchir entre organisations humanitaires qui interviennent dans les crises, mais aussi organisations de la société civile, mouvements plus engagés peut-être sur du long terme, y compris sur les champs politiques? Parce que quand on voit effectivement les victimes de ces dérèglements climatiques et autres dérèglements, c'est à nouveau toujours les plus pauvres. Donc il y a un combat en fait politique, ou en tout cas des liens à mener entre les acteurs qui interviennent dans les situations d'urgence et ceux qui travaillent sur la justice et la réduction des inégalités.
Bref, revenir aux sources, revenir à la société civile, et bien sûr, les ONG de par le monde sont d'abord le fruit de la société civile, puisqu'elles viennent en concurrence, en complémentarité, du travail des États et du travail des organisations internationales en tant que telles. Merci à vous deux, François Grunewald et Véronique de Geoffroy, de nous avoir reçus à la Fontaine des Marins. Merci à vous.
Merci.
Et à bientôt.
Human,
un
podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.